Our next speaker is going to tell us about the Salafism, Sectarianism, and Violence group. And our speaker is Mohammed Ali Adrawi, who is a researcher at the Middle East Institute of the National University of Singapore. And he is the author of Du Golfe au Bagne, Le Salafisme Mondialisé. Correct?
Merci à tous. Donc tout d'abord, permettez-moi de remercier les gens qui ont organisé ce colloque extrêmement intéressant qui va nous amener à nous revoir certainement dans de prochains mois. Je tiens à remercier également mes camarades du panel numéro 3, Sari Hanafi, Fabio Melone, Marc Sejman, en attendant des personnes qui malheureusement pour des raisons de santé n'ont pas pu nous rejoindre pendant ces deux jours. La question du salafisme ou des salafismes ou de la matrice salafiste, dont vous comprenez que la finalité est de refaire de l'islam une grande religion, à l'instar d'un grand pays qui vient d'élire un grand président ces derniers temps. La spécificité, si spécificité il y a de ce panel, elle tient au fait qu'on analyse les phénomènes de violence à travers cette fois-ci un angle précis. Donc on nous a demandé de réfléchir à l'impact d'une matrice idéologique, le salafisme, un courant ou une famille de courants, sachant que les enjeux définitionnels sont extrêmement importants, qui prône eh bien, la nécessité de revenir à l'origine de l'islam, au point de départ de la religion musulmane. D'ailleurs, salafisme, pour celles et ceux qui sont arabisants, procède de l'arabe salafia, qui signifie le retour au salaf salih, les pieux devanciers, les sages anciens, les vertueux prédécesseurs. Eh bien, le salafisme, donc, on nous a donné une question passionnante à traiter, à savoir l'impact d'un système de pensée sur une pratique politique, à savoir la violence. Sachant que je crois que c'est le seul panel qui a cette focale idéologique. C'est une idéologie, comme on l'a dit, et ce sera une des bases de notre différence. Ça a été une base de nos discussions pendant deux jours, et ça va continuer de l'être dans les différents travaux qui seront les nôtres pour les prochains mois. C'est une idéologie transnationale et circulatoire, ce qui est extrêmement intéressant, extrêmement important. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que sur un plan méthodologique, ça a des conséquences, puisque souvent, les chercheurs qui travaillent sur le salafisme se voient poser la question, oui d'accord, mais le salafisme dans quel pays? Sachant que c'est extrêmement complexe, parce que certes, c'est une religiosité fondamentaliste au sens premier, puisque revenir au premier temps d'une religion, c'est une démarche fondamentaliste. Mais méthodologiquement, comme je le disais, il y a une complexité supplémentaire, c'est que analyser le salafisme en France n'est pas nécessairement analyser le salafisme dans le Golfe, qui n'est pas nécessairement analyser le salafisme au Maghreb, et je pourrais continuer pendant très longtemps. Et en plus d'être transnationale, cette idéologie ou cette famille idéologique, si vous voulez, cette matrice, elle est circulatoire, ce qui veut dire qu'elle est évolutive. Ce qui veut dire que les choses changent, que la sociologie des mouvements change, ce qui veut dire que ça n'a pas les mêmes impacts, ça n'a pas les mêmes présupposés pour qui veut s'intéresser au lien entre salafisme d'une part et violence politique d'autre part. Nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de choses, de questions à traiter de manière extrêmement sérieuse avant de commencer à travailler, de mettre en place un programme de recherche. La non moindre des questions est certainement celle des enjeux définitionnels. Puisqu'une fois que vous avez dit le salafisme, c'est le retour aux sources, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Il y a, pour celles et ceux qui connaissent un peu la question, une typologie qui a fait autorité pendant un certain nombre d'années, qui continue d'être utilisée, une typologie qui distingue grosso modo les salafistes dits quiétistes, qui disent ne pas vouloir aller loin dans la politisation, ils sont légitimistes. Ce sont des personnes qui, par exemple, reconnaissent pratiquement tous les régimes comme légitimes de fait, à défaut d'être légitimes de droit, et ne prônent pas la sédition, l'anarchie, puisque ce sont censés être des choses qui sont, attentatoires à l'ordre social, attentatoires à la stabilité, sans laquelle il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'orthopraxie, il n'y a pas d'orthodoxie. Une deuxième famille, dont je vais traiter rapidement pour vous donner une idée là-dessus, une famille participationniste, des salafistes participationnistes, qui incarnent une nouvelle génération de l'islam militant, l'islam politique. J'imagine que vous connaissez les frères musulmans. Eh bien, les frères musulmans incarnent l'islamisme canal historique, si vous préférez. Et les familles, la nouvelle configuration du salafisme qui aujourd'hui se constitue en partis politiques, notamment en Égypte et ailleurs, est un deuxième courant. Et la troisième partie, la troisième acception du salafisme, qu'on appelle aussi jihadisme, un mot sur l'origine de ce concept, parce qu'on entend, on a parlé de salafisme-jihadisme, comme si, eh bien, on ne pouvait être jihadiste qu'en passant par la case salafiste, comme si la socialisation fondamentaliste, religieuse, poussait à l'extrémisme politique radical. Ce qui est une question, qui est une relation, si vous voulez, qu'on a vérifiée, qui s'est vérifiée pendant de nombreuses années, notamment à l'instigation de certains États, qui poussaient dans les deux sens. On salafise le corps social et on pousse pour une lecture politique véhémente du jihad, un concept qui est religieux, équivoque, mais qui peut être compris par certains comme une justification de la violence. Quel type de violence? Contre qui? Ça, ce sont des débats qui viennent après. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que dans la famille, donc dans la partie qui nous a beaucoup intéressé pour commencer les enjeux définitionnels, tout d'abord, quid de cette typologie? Est-ce que certains événements ces dernières années nous poussent ou doivent nous pousser à revoir, nous en tant que chercheurs, eh bien, la typologie dite entre guillemets traditionnelle? Faut-il revoir un certain nombre de familles, compte tenu de leurs pratiques, leur imaginaire, leur sociologie, et éventuellement, si on verra dans les prochaines semaines et les prochains mois, dans notre rapport, eh bien, conclure à une nouvelle typologie, à de nouveaux idéotypes, plus complexes peut-être, plus dynamiques. Comment introduire par exemple l'évolutivité des mouvements dans cette typologie qui est excellente, qui a été pendant longtemps utilisée, qui l'est toujours, mais qui serait selon certains, eh bien, datée. Un deuxième enjeu est celui de la circoncision de l'espace temporel et de l'espace géographique. Par exemple, travailler sur quel type de mouvement salafiste, quand et où. C'est-à-dire que faut-il, par exemple, commencer par une approche historique. Le salafisme s'est structuré autour de différents événements depuis plusieurs siècles, autour de différentes figures. Vous connaissez certainement Abdel Wahhab en Arabie Saoudite qui donne wahhabisme, qui est une figure historique du salafisme. Ou faut-il historiciser, commencer par une démarche historiciste, le jihadisme qui va nous intéresser, le salafisme qui va nous intéresser, c'est telle période à telle époque, tel lieu à telle époque. C'est pas, je vous parle également d'espace géographique. Est-ce que le Moyen-Orient reste une région, comment dire, prioritaire en termes de recherche? Comme je vous le disais en préambule, étant une idéologie transnationale et circulatoire, c'est aussi une idéologie qui mériterait une sérieuse comparaison. Voilà. Donc ce sont des questions qui nous ont, qui vont nous tenir en alerte pendant assez longtemps. Quelle également réflexivité des acteurs, puisqu'il y a une évolutivité. Des gens qui se disent ou ont une pratique qu'on pourrait croire salafiste, mais qui ne se revendiquent pas salafiste. Quelle place du regard extérieur de certains musulmans non salafistes, voire de certains non musulmans, sur les enjeux, les débats liés au salafisme? Vous savez que récemment, par exemple, ça a été évoqué durant nos échanges, une responsable politique d'importance à NKM, pour les initiales, a précisé qu'elle souhaiterait assez fortement interdire le salafisme en France, puisque sans salafisme, pas de violence. Hein, donc, pour pas de violence, pas de salafisme, ce qui est une manière de penser. Elle a poussé la logique jusqu'au bout, hein, parce que donc salafisme, dans son esprit, est égal violence. Je reviens maintenant à nos slides. Quand nous parlons de « Make Islam Great Again », vous avez bien compris que c'était la finalité, nous avons décidé de partir de deux questions essentielles. Quels sont les rapports entre salafisme et violence? À deux titres. Quelle nature des rapports? Causalité, corrélation, influence, déterminisme, neutralité, n'est-ce pas? Et quel salafisme pour quelle violence? C'est-à-dire, est-ce que je parle de jihadisme? Est-ce que je parle de quiétisme? Est-ce que je parle d'une violence symbolique? Est-ce que je parle d'une violence politique? D'une violence psychologique, culturelle? Voilà. Et deuxième chose, quelle logique, bien évidemment, de sortie de quel type de violence? Voilà, à partir de, en procédant par étapes, en identifiant une certaine configuration dans les rapports entre salafisme et violence, eh bien, quel discours, quelle analyse de notre part en termes de sortie de violence? Pour ça qu'on a parlé d'une violence incertaine et un certain rapport à la violence. Donc, est-ce que le salafisme conduit à la violence? Si oui, sous quelles conditions? Et comment en parler en termes de sortie de violence? Voilà. Un autre élément va constituer un axe majeur de notre travail. Le salafisme et le jihadisme, on a choisi d'en parler en termes d'abord et avant tout historiques, plutôt que linéaires, plutôt que religieux, plutôt qu'en partant de textes religieux, de sources scripturaires. Le salafisme et le jihadisme sont les fruits d'un contexte historique propre. Et on s'est rendu compte, en travaillant sur cet élément-là, que non seulement on pourrait bien évidemment croire que le salafisme et a fortiori le jihadisme sont des idéologies cardinales en matière de production de la violence, mais on oublie de préciser qu'elles sont elles-mêmes nées dans une configuration de la violence très précise. Je vous donne un exemple. Le jihadisme peut être vu, c'est une manière de voir le jihadisme, donc des mouvements comme Al-Qaïda sont jihadistes, des mouvements comme Daesh sont jihadistes, considérés comme tels du moins, mais ils sont nés dans une configuration d'échec de différents phénomènes de violence préalables et antérieurs. L'échec de différentes idéologies non islamiques, l'arabisme, le socialisme arabe, et d'idéologies islamiques qui, elles-mêmes, du fait de leur échec affiché, comme celui des frères musulmans, à saisir le pouvoir, à s'intégrer dans le jeu politique, hein, je fais référence à la thèse d'Olivier Roy sur l'échec de l'islam politique, eh bien, ces différents phénomènes, cette congruence, si vous voulez, a ouvert des espaces d'opportunités identitaires, politiques, religieuses, militaires, parfois terroristes, à des mouvements eh bien, qui étaient de plus en plus radicaux. Donc en soi, avant même de partir de l'angle d'analyse salafisme-violence, jihadisme-violence, ces mouvements sont déjà, sur le plan de leur genèse historique au XXe siècle, issus d'une configuration violente précise. En soi, c'est important, parce que ça nous permet, mine de rien, d'avancer dans le débat et d'analyser ces phénomènes de violence, de justification de la violence, de production de la violence, de mise en pratique de la violence, en termes de contre-violence. À qui, quel ennemi, quelle configuration? Ce qui nous a amené à saisir deux choses. Les conditions objectives d'émergence, par exemple, du jihadisme, c'est ce contexte de réaction à l'échec d'autres idéologies. Et deuxième chose, sur un plan subjectif, les conditions subjectives d'apparition du jihadisme, c'est ce qu'on a appelé, avec mes collègues, si vous voulez, la centralité du paradigme de l'insécurité. L'islam, la Oumma, avec, si vous voulez, différentes traductions, la Palestine, la Tchétchénie, l'Irak, les sunnites syriens, enfin dans différentes régions du monde, eh bien, la Oumma est en danger. La Oumma nécessite une mobilisation transnationale au nom d'un référentiel fondamentaliste, une contre-violence qui non seulement est réparatrice, vengeresse, mais elle est aussi utopique dans la mesure où elle a pour visée de construire une société, de jeter les bases d'un modèle social entre guillemets authentiquement islamique qui permettra eh bien, de répondre à la crise traversée par les sociétés musulmanes depuis maintenant un siècle. Quels enjeux maintenant en termes de sortie de violence? Il me reste encore un peu de temps. Très bien, c'est parfait. Que dire, par exemple, à partir de ces éléments-là, en termes de stratégie de désescalade du conflit, d'un conflit où seraient impliqués, par exemple, des jihadistes, puisqu'ils peuvent être non pas les initiateurs d'un conflit, mais en venant se greffer à un conflit, c'est ce que disait Michel Vivorca hier, ils changent la logique du conflit, et donc éventuellement la possible logique de sortie du conflit. Un conflit qui peut commencer pour des raisons ethniques, société, État, régime, population, peut être, avec l'arrivée, l'implication d'acteurs jihadistes, peut subir un phénomène de transformation de l'imaginaire des acteurs et de la structure du conflit. Donc, quelles conséquences en termes de désescalade? Discours religieux, discours politique, discours de droit, discours humanitaire. Deuxième question, comment ouvrir une voie non violente d'expression de revendications qui peuvent être parfois légitimes? C'est ça qui est intéressant. Parfois, les acteurs jihadistes peuvent avoir ou peuvent porter des revendications légitimes. Protection de population, défense d'une identité qui se veut blessée, humiliée, ce genre de choses. Troisième chose, comment éliminer les phénomènes d'agression, les sentiments, les perceptions d'agression à l'endroit de sa communauté, de son groupe? Faut-il, par exemple, traiter avec des mouvements modérés contre les jihadistes? Faut-il intégrer une partie des jihadistes? Les jihadistes sont-ils, entre guillemets, récupérables? Est-ce que le terrorisme est un moyen d'abord, une fin ensuite? Est-ce que ce qui intéresse, par exemple, certains jihadistes français, ce sont les valeurs françaises, la politique de la France en Syrie, certains discours anti-musulmans? Ce genre de question est donc central, pour éviter donc ce que Mark Sedgman appelle le moral outrage. Et je termine avec quelques exemples. Au niveau microsociologique, comment changer si on part du principe qu'il y a donc un framing jihadiste et salafiste, jihadiste d'abord, essentiellement, s'il y a un cadrage jihadiste des conflits, un cadrage jihadiste des acteurs, de leur psychologie, comment changer leurs repères identitaires? Donc on a parlé par exemple dans le Golfe de certaines personnes qu'on invite à se marier, à devenir père de famille, de manière à changer leurs enjeux personnels, leurs enjeux individuels qui pourraient éventuellement avoir des conséquences sur leur positionnement politique. Est-on prêt à perdre sa vie lorsque on devient père, lorsque Est-ce que les vieux sont plus enclins à devenir djihadistes que les jeunes? Est-ce que les jeunes des milieux ruraux sont plus enclins à devenir djihadistes que les jeunes de milieux urbains? Ce genre de choses. Et au niveau macro-sociologique, comment faut-il, et si oui, comment reconnaître la part de légitimité de certaines revendications de manière à réduire le sentiment d'insécurité de sa communauté? La Oumma, en l'occurrence, faut-il intégrer une partie de la critique des acteurs de l'islam radical dans sa propre politique, dans sa propre perception? Est-ce que les responsabilités peuvent être plus ou moins partagées? Est-ce que les configurations politiques obéissent uniquement, est-ce qu'on pourrait uniquement sortir de la violence en changeant les repères religieux, les repères identitaires des acteurs concernés? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie et voilà.
Well, you got applauded too.